tu l'as vu ?
Quoi ?
Eh, tu l'as vu ?
Mais quoi ?
Bah l'actu.
T'as vu l'actu ? Tous les samedis de 17h à 18h dans la tribu. La jeune et moins jeune rédaction décortique l'actualité locale, nationale et internationale.
Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
À Nanterre, un mot d'ordre a été lancé. Occupez le quartier latin.
Réalisation d'interviews, accueil d'invités, correspondants étrangers, direct.
La tribu, l'information autrement.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de T'as vu l'actu, qui dure une heure, vous êtes contents de le savoir, hein. Nous on est ravis en tout cas d'être ensemble. Bonjour, bonsoir, du coup Olympe, cherchais de quel côté j'allais, pourquoi je t'entends pas Olympe ? Bah si, normalement il est allumé, c'est quoi cette histoire, vas-y. Bonjour. Bah oui, non, qu'est-ce que c'est ? Que quoi ? Mais on a un souci. On a un souci de câble, quelque chose. Est-ce qu'une âme charitable, genre Aesa, pourrait passer le micro 4, du coup, à Olympe ? En attendant, on va dire bonjour à Romain. Bonjour, bonsoir, Romain.
1, 2.
Ah, mais non, on n'entend pas non plus ou... Il y a une blague. Alors, moi, mon micro, il passe... Ben, en fait, je cherchais à faire une censure dans cette émission. Et du coup, les micros ne sont pas allumés. est-ce que vous m'entendez ?
1, 2.
Ah, mais oui, voilà.
De s'allumer.
Non, mais moi, qui c'est qui a pris le studio hier ? Élise Geffroy. Voilà.
Ah, Élise.
Comment accuser Bah, en même temps.
Merci André.
Alors, bonjour, bonsoir, Olympe.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir, Romain.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir, Corentin.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir, Aesa.
Bonjour, bonsoir, et on n'entend pas.
Bonjour, bonsoir, Aesa.
Bonjour, bonsoir.
Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir, Marius.
Bonjour, bonsoir.
Aesa, je veux bien que tu remontes à un poil, chouïa, ton micro. Voilà. Bon, c'est bon, on va régler cette histoire de micro là à tout jamais. C'est pas possible. Merci encore, André. Je pense que. Ouais, je suis pas sûre que j'aurais. Ça aurait pu durer longtemps, en tout cas, notre petite histoire. Alors, du coup, on se posait la question pendant ce générique, qui est toujours très en avance hein, par rapport au début de l'émission, de l'ordre des sujets. Donc, on va décider ensemble. On va faire un vote à main levée. Comme on est une radio locale, associative, voilà, des fois, on commence plutôt par des sujets locaux, mais aussi. Il y a des sujets qui sont, on va dire, les plus frais dans l'actualité. On aime bien aussi sortir ce qui est le plus frais. Donc, il va falloir trouver un mix entre les deux. Donc, Aesa, tu vas nous parler de quoi ?
Moi, je vais vous parler d'un jeune qui s'est fait tuer au Mans mercredi soir.
D'accord. Marius ?
Moi, je vais parler du scandale Orpea.
Olympe ?
Je vais parler du prix du carburant.
D'accord. Romain ?
Les dernières actus sur la guerre en Ukraine.
Corentin ?
La guerre en Ukraine.
Alors, par quoi commence-t-on ?
Pas comme ils ont deux fois la guerre en Ukraine, comme ça elle se complète.
Je voulais te dire comme ça on sera tranquille. Donc, vision d'Olympe. Marius ?
Je sais pas.
Aesa ?
Moi je partirai sur la guerre en Ukraine aussi.
Le plus frais ?
Ouais.
Les garçons ?
C'est qui commence ?
Alors, ok, on commence par la guerre en Ukraine. Qui commence sur la guerre en Ukraine ? On va commencer par Romain, c'est ce qui me semble le plus logique parce que c'est ce qui s'est déroulé le plus fraîchement.
Oui, fraîchement.
C'est ça.
Je suis
donc
frais.
Aujourd'hui, avec notamment un couvre-feu qui a été annoncé à nouveau à Kiev.
Oui, donc un.
C'était
un
pas du tout ton début, je sais, mais c'est pas grave.
Quelle transition. Ça a été décrété lundi, en début de semaine à 20h et c'est en vigueur jusqu'à mercredi. De la semaine prochaine à 7h, mais apparemment, alors je demande à ce qu'on vérifie quand même parce que je suis pas trop sûr, le maire de Kiev
il aurait annulé
ce couvre-feu là, il aurait renoncé à l'application de ce couvre-feu, donc je préfère m'abstenir sur cette information. Donc voilà.
On va vérifier.
Et mais donc du coup on a pu remarquer, merci pour cette
donc c'est annulé ?
Oui.
D'accord. Heureusement qu'il y a des vrais journalistes dans cette radio.
Donc depuis deux semaines, évidemment, il y a eu des bombardements un peu dans toute l'Ukraine, hein, dans les villes notamment dans la capitale, au sud de cette capitale, dans le nord à Tchernigiv et Jytomyr. Je vais m'entraîner à parler ukrainien. À Kharkiv et Merefa dans le nord-est, à Dnipro. Et Zaporozhye, dans le centre. Lviv est la base de Yavoriv, dans l'ouest, à 20 km de la Pologne, donc un pays membre de l'OTAN, ce qui fait craindre un rapprochement des conflits vers l'Occident. Évidemment, dans la région du Donetsk et du Lugansk, dans le Donbass. Dans l'est et également dans le sud et le sud-est du pays, et notamment dans la ville de Mariupol, la ville portuaire de Mariupol, qui est l'une des cibles principales des frappes russes. Donc même si les cibles de base principales sont essentiellement situées envers les bases militaires et aériennes, et en particulier vis-à-vis de la compagnie aérienne Antonov, le constructeur aérien Antonov, ainsi que des aéroports comme ceux situés à Kiev ou Lviv. Il y a aussi des sites civils qui ont été visés depuis ces derniers jours, comme une mosquée ou un théâtre à Mariupol, où 80 et peut-être plusieurs centaines de morts sont à décréter, ainsi qu'une école d'art, toujours à Mariupol, et un musée il y a quelques heures. Des magasins, des hôpitaux et des appartements font également partie du viseur russe. Donc, pour les actualités autres, il y a eu le 11 mars l'enlèvement des maires de Melitopol et de Dniprodun. Donc, je pense que c'est celui de Melitopol qui a pu être libéré il y a 10 jours. Je ne sais pas pour l'autre. De nombreux journalistes, évidemment, ont été tués au cours de ces attaques-là, puisque c'est un centre, c'est une profession qui est particulièrement visée, comme on peut le craindre en temps de guerre. Donc, que ce soit des journalistes américains, ukrainiens et même russes, ils ont été pris pour cible. Il y a eu la Russie qui a annoncé le lancement de deux missiles supersoniques vers l'Ukraine. Donc je ne sais pas si ça a été confirmé comme information, mais si c'est le cas, c'est la première fois de son histoire que la Russie utilise ce genre d'arme. Et au niveau des cyberattaques...
Corentin, tu sais confirmer hein, cette information?
Je crois toujours pas.
Ah, toujours pas, autant pour moi, je croyais que si.
Concernant le couvre-feu?
Non, les missiles.
Non, ah oui, c'était pas la première fois, puisqu'ils l'ont déjà fait il n'y a pas très longtemps. Ils ont déjà lancé un missile.
Des missiles hypersoniques, c'est la première fois qu'ils sont utilisés en temps de guerre.
Ouais. Ah, merci de préciser. Et donc, du coup, des cyberattaques qui ont touché l'Europe. Je pense que c'est des chaînes de télé, Google, Snap. Après, on ne sait pas forcément, il n'y a pas forcément de confirmation que c'est d'origine russe, mais plusieurs entreprises de communication occidentales ont été piratées ces derniers jours, ainsi que le service cloud de Apple. Et donc pour le point diplomatie, je ne vais pas trop préciser puisqu'après tu vas renchérir, plus de 3 millions de réfugiés ukrainiens qui se sont déplacés à travers l'Europe et en Russie. Le Conseil de l'Europe a officiellement, quant à lui, exclu la Russie et a suspendu ses relations avec la Biélorussie. Concernant une proposition de la Russie sur un statut éventuellement neutre de l'Ukraine, à l'image de l'Autriche ou de la Suède, l'Ukraine a refusé cette idée de neutralité. Concernant le monde médiatique, évidemment, il y a eu des censures de médias en Russie avec la BBC ou encore la fermeture de 15 médias par le gendarme russe des télécoms. Euronews a également été fermé sur ce territoire. Du côté occidental, le Canada et le Royaume-Uni ont interdit les chaînes RT et RT France, qui sont suspectées de propagande pro-russe. Facebook et Instagram, pour ce qui est des réseaux sociaux, ont été interdits par la Russie, car accusés d'extrémisme, puisqu'il faut savoir que le groupe Meta avait autorisé récemment la diffusion des messages haineux voire des incitations à la haine et à la mort envers les militaires russes. Une ONG a été dissolue.
Dissoute,
c'est l'ONG Mémorial.
Ça fait un bout de temps, ça.
Bah, ça a été confirmé apparemment il y a peu de temps. Et pour ce qui est... Ah oui, il y a un événement qui s'est passé le 14 mars. Si on veut rester dans le monde médiatique, c'est une intervention d'une journaliste russe à la télévision, à la chaîne de télé Kervi Canal.
Ça a plus d'une semaine, ça, non ?
Oui, mais on n'en avait pas parlé. Donc du coup, ça peut... Ça, à la suite de son intervention, il y a eu de nombreuses démissions, une dizaine de démissions qui a été déplorée sur la chaîne TV. Et c'était quand même pas mal. Et puis il y a une question autre qui se pose par rapport au monde diplomatique, c'est le statut de la Chine depuis les Jeux paralympiques, qui sont restés assez silencieux. Et en même temps, qui se sont abstenus de condamner la Russie sur son invasion de l'Ukraine. Et certains craignent un rapprochement vers la Russie de la Chine.
Des réactions ? Est-ce que vous continuez à suivre au jour le jour un peu ce qui se passe en Ukraine ? Olympe ?
Ça passe beaucoup à la télé, mais on voit beaucoup d'explosions. Et je crois, là, ce midi... Ils ont dit que les Russes voulaient prévoir un nouveau plan parce qu'ils ont compris que ça marchait pas pour atteindre la capitale. Et les Européens espèrent un retour, mais qu'ils retournent chez eux. Mais on sait bien que ça va pas se passer comme ça. Ils vont juste réattaquer.
Corentin.
De quoi ?
Est-ce que tu continues ?
Oui, un peu. En même temps, je pense que comme on en parle de moins en moins, les gens suivent de moins en moins. C'est aussi de moins en moins facile de voir, de s'informer.
Forme de lassitude.
Voilà.
Oui. C'est triste, mais c'est... Marius ?
Parce qu'au début, il y avait plein d'émissions en soutien au peuple ukrainien. Ça faisait la une sans cesse. Il n'y avait que ce sujet-là. Il y avait même plus de une, puisqu'il y avait un seul sujet quasiment. Et maintenant, on parle d'autres choses, mais on parle pas forcément de sujets qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine. On parle de sujets qui en découlent, comme le prix du pétrole, c'est ça ? Oui.
Dont on va parler tout à l'heure, d'ailleurs.
Ou alors de l'embargo sur le gaz russe, des choses comme ça, mais plus vraiment de ce qui se passe en Ukraine. Enfin, on en parle toujours un peu, mais de moins en moins.
Aïssa ?
Oui, je suis les informations, mais peut-être plus autant qu'avant. Parce que, au bout d'un moment, ça parle tout le temps à peu près de la même chose. Mais dès qu'il y a des nouvelles choses, j'essaie quand même de me tenir informée. Mais moins qu'avant.
Romain ?
J'essaie de suivre assez régulièrement les actualités.
On imagine, vu que tu as choisi ce sujet.
Ouais, j'essaie à chaque fois de regarder sur les sites d'infos en continu. Je regarde, je vais pas passer mon temps devant les chaînes d'infos continu par exemple, mais je regarde par exemple au fil d'actualité s'il y a vraiment des actualités importantes qui se sont passées sur le jour. Et oui, j'essaie de suivre, mais c'est vrai que ça se ressemble beaucoup et ça a même l'air de stagner puisque en fait il y a moins de progression, on a l'impression de l'armée russe de façon physique en Ukraine. Il y a moins de possession territoriale et d'ailleurs ils ont récemment changé leur stratégie d'invasion entre guillemets, puisque ils
pas entre guillemets,
littéralement. Et parce qu'ils ont annoncé se concentrer davantage sur les territoires du Donbass et sur la ville de Mariupol, donc plus dans le sud et sud-est de l'Ukraine. Et à voir pour la situation à Crimée.
J'avais entendu qu'il y avait, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais bon,
il y a une moto qui passe dans la rue. Ce studio est incroyablement bien insonorisé.
J'avais entendu qu'il y avait parmi les stratégies d'invasion que les Russes voulaient occuper tous les territoires qui bordent la mer Noire, enfin tous les territoires ukrainiens, et qu'ils étaient en train de... Enfin, c'était l'objectif principal. Après, je sais pas si c'est ça qui a changé, justement.
Corentin ?
Je crois qu'en fait, au début, il devait y avoir vraiment le projet de... je sais plus si c'est Grande ou Nouvelle Russie, c'est-à-dire récupérer tous les oblasts, donc les régions d'Ukraine qui touchent la mer Noire. Or, ils arrivent toujours pas à... En fait, on va dire que la mer Noire, il y a la Crimée qui est à peu près au milieu, qui coupe plus ou moins l'Ukraine en deux. Et tout ce qui est à l'est de la Crimée, où il y a Mariupol, donc la mer d'Azov, ils ont plutôt tout récupéré. Or, tout ce qui est à l'est avec Odessa, là, ils ont rien eu.
À l'ouest ?
Oui, pardon, à l'ouest.
Non, mais il y en a une qui suit dans cette émission. Oui, c'est ça, à l'ouest, ouais. Mais on pensait pas... Peut-être que la différence avec c'est que ce qui semble d'une logique voilà malheureusement c'est qu'il y a de plus en plus de civils de toucher, mais en tout cas que les cibles sont plus des civils, on va dire, avec l'école d'art, avec voilà la semaine d'avant l'hôpital, enfin la maternité,
c'est beaucoup des centres
là on voit que depuis deux semaines c'est davantage de plus que des cibles tactiques, on voit que c'est davantage des cibles civiles.
Et pourtant l'administration russe, enfin le Kremlin, il dément toujours qu'ils attaquent, alors que qui pourrait faire ça en fait ? Qui pourrait s'en prendre à des hôpitaux à part eux ? Faut pas oublier que c'est eux qui ont envoyé l'invasion. Enfin...
Et puis sachant que une fois, ok, mais là on voit que ça se multiplie quand même. Oui. Ah bah ça fait beaucoup d'erreurs quand même. Hein. Autre chose à rajouter sur l'évolution de la guerre, du front ? Est-ce que vous voyez ça comment un petit peu ce conflit s'enliser ? Voilà, Corentin.
Mais je pense aussi au début, on imaginait que. Je pense à peu près tout le monde que la Russie irait beaucoup plus vite. Parce que je pense que tout le monde a plus ou moins l'image d'une armée russe très forte, très puissante. Or, ils sont, on va dire, ils sont un peu en train de stagner. Mais les Ukrainiens ne reprennent pas pour autant beaucoup de territoire. Et je pense qu'en fait, tout ça, c'est lié. Il y avait une grosse activité médiatique quand il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et au fur et à mesure, il y a toujours autant de combats, mais le front, il reste pareil. Alors les médias, ils en parlent moins.
Olympe,
deux trucs, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, parce que l'armée ukrainienne, elle est beaucoup plus grande maintenant, parce que les femmes se sont mises à la guerre. Récemment, pas toutes, mais il y en a certaines qui ont donné donné entre guillemets leurs enfants pour les sauver, et elles sont parties au front, et du coup, ça donne une aide en plus. Et il y avait une ville qui était totalement occupée par les Russes, qui a été reprise par les Ukrainiens. Donc la guerre continue, et les Ukrainiens se défendent comme ils peuvent, et ils réussissent beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de pertes de Russes que d'Ukrainiens pour l'instant. Enfin, pas niveau... Après, ça dépend sur quel... comment dire.
À tous les niveaux, parce qu'il y a même... plusieurs oui. choses matérielles qui sont rapportées, et pour l'instant ils perdent beaucoup plus les Russes
parce qu'il y a peut-être plus de matériel. Il approuve ce que tu dis justement.
Ah, oui, et humain aussi, oui. Purement soldat,
mais il a un ton un peu des fois Corentin, voilà. Mais il approuvait totalement ce que tu disais. Romain.
Oui, c'est concernant les pertes justement, les pertes militaires, parce que c'est une source Wikipédia, je préfère préciser. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant que je viens de découvrir, ça s'appelle le brouillard de guerre, et apparemment c'est les incertitudes qu'on peut avoir sur les pertes civiles et militaires selon le point de vue des belligérants. Et qui peut varier. Par exemple, on peut voir que pour les pertes militaires du côté des Russes, on en a 1351 selon la Russie, mais 15 800
c'est comme les manifs, quoi, selon les policiers ou les 3500, organisateurs,
voilà, que je voulais dire, et 3500 selon les Américains. Alors que pour l'Ukraine, donc l'Ukraine qui donne certainement plus d'espoir.
Les deux côtés.
Ouais, voilà.
Bah oui, c'est vraiment que c'est jeu,
des deux
de
côtés.
Façon,
c'est
les sources.
Ça met forcément plus de victimes dans le camp adverse, selon qui est pour qui. Parce que pour le côté Ukraine, c'est 1300 morts pour les militaires, 14 000 morts selon la Russie, Et entre 2000 et 4000 morts selon les États-Unis. Donc finalement, qui croire ?
Marius ? Faut croire Marius.
Non, mais dans la guerre en Ukraine, il y a la guerre physique, donc, avec de vrais armements, on va dire. Et il y a la guerre médiatique et la guerre des chiffres, et elle a son importance. Sinon, je pense pas qu'il l'utiliserait autant, parce que j'avais entendu des spécialistes dire que on a tendance, nous, parce qu'on est en Occident, à défendre l'Ukraine, le peuple ukrainien, ce qui est pas fou, enfin ce qui est pas une mauvaise chose, hein, pas du tout, mais en tous les cas à accueillir toutes les sources qui nous sont données par le président Zelensky et son entourage comme étant véridiques, on va dire. Et sauf que si on approuve tout ce qui est dit, ça peut vite tourner en propagande, soit. Et c'est ce qu'il disait, c'est que les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, en tous les cas, se défend comme les Russes, on va dire, par les mêmes moyens, enfin pas les mêmes moyens, mais tous les moyens dont les Ukrainiens disposent sont utilisés. Donc aussi la guerre des chiffres. Et on n'est pas du tout sûr de ce qu'ils disent parce que dans toutes les guerres, ça s'est passé comme ça. Je crois pas qu'il y ait des camps qui donnent des chiffres plus ou moins exacts sur leur nombre de morts.
Et Corentin, justement, du coup, toi, tu vas nous donner une autre vision, en tout cas, de la guerre en Ukraine, un autre angle, comme on dit dans le jargon journalistique. Tu as choisi une autre thématique.
Oui, puisque jeudi 24 et hier vendredi 25 mars, trois sommets extraordinaires sur la guerre en Ukraine se sont tenus à Bruxelles. Le principal sommet était celui des chefs d'État ou de gouvernement des 27 pays membres de l'Union européenne, auxquels se sont ajoutés le sommet extraordinaire des 30 pays de l'OTAN et des dirigeants du G7. Tout d'abord, le sommet de l'UE a abordé plusieurs thématiques. En premier lieu, l'accueil des réfugiés. Selon Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, 3,3 millions d'Ukrainiens ont déjà quitté leur pays et 2,7 sont actuellement en Pologne. Et à terme, les pays européens pourraient accueillir 10 millions de réfugiés, soit autant d'habitants que le Portugal. Les pays européens ont mis en place un certain nombre de mesures comme la directive de 2001 sur la protection temporaire. La mise en place de cette directive offre à tous les Ukrainiens le droit pendant un an de vivre, travailler, être soignés, etc. dans les pays de l'Union européenne. L'UE a également incité tous les ministères de l'éducation des 27 à mettre en place les moyens permettant la continuité pédagogique de tous les enfants ukrainiens et la Commission européenne est en train de travailler sur un système d'harmonisation des compétences et diplômes ukrainiens et européens pour faciliter la recherche de travail des réfugiés. Les moyens financiers seront également engagés avec un plan de plus de 10 milliards d'euros dont 848 millions d'euros pour la France. La Moldavie, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui accueille beaucoup de réfugiés, recevra 150 millions d'euros. Par ailleurs, les 27 ont invité les pays non européens du G7 à prendre leur part dans cet accueil. Les États-Unis s'engagent à recevoir 100 000 réfugiés et le Japon s'engage quant à lui à fournir une aide financière aux 27. Ensuite, les dirigeants de l'UE ont acté le raccordement de la Moldavie et de l'Ukraine au réseau électrique européen pour limiter le risque de coupure de courant dans ces deux pays. Les dirigeants ont aussi incité aussi la Commission à accélérer le processus d'adhésion des nouveaux pays qu'ils demandent, donc Moldavie, Ukraine et Géorgie. Concernant l'OTAN, les 30 pays membres ont validé le doublement des forces en présence sur le flanc oriental de l'Alliance, plus précisément en Roumanie, Bulgarie, Hongrie et Slovaquie. Ainsi, ce seront 4 groupements tactiques qui viendront renforcer les 4 déjà présents dans la zone à l'est de l'Europe. Pour le moment, les pays européens ont déployé 40 000 soldats, complétés par 100 000 soldats américains. Le chef de l'OTAN dit que l'Alliance a, je cite, « des plans pour protéger tous les alliés contre une attaque avec des armes nucléaires » et que des équipements de protection contre les armes chimiques, biologiques et nucléaires seront donnés aux soldats de l'OTAN, mais également à l'Ukraine. En visite pour l'occasion, le président américain Joe Biden a déclaré qu'aucun soldat ne sera envoyé en Ukraine, qu'aucun avion ne survolera l'Ukraine, mais qu'il défendra chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. En visite en Pologne, il a remercié les soldats américains déployés dans le pays et aujourd'hui il s'est entretenu avec le président polonais Andrzej Duda et promet des coopérations renforcées dans tous les domaines avec tous les pays européens. C'est donc le grand retour en force de l'Europe dans les politiques étrangères américaines et la mise de côté de la stratégie du pivot du Pacifique initiée par Obama et Biden il y a 10 ans.
Oh, je suis désolée, Corentin. On a perdu la ligne.
Merci, Corentin.
C'est quoi cet éternuement ?
Bah, c'est un éternuement.
Ah bah, fou, c'était puissant. Alors, Corentin, pourquoi as-tu choisi cet angle de sujet ?
Bah, parce que ça... Ça change un peu des combats et ça montre quand même que... Enfin,
la diplomatie continue ?
Voilà. Et puis aussi, on aborde un peu... Bah, je pense le sujet qui sera le plus long terme, qui sera les réfugiés, et, mais également, je l'ai pas, enfin, là je le rajoute, mais l'Union européenne va aussi envoyer plusieurs millions d'euros à l'Ukraine pour essayer de garantir la stabilité du pays, notamment que les fonctionnaires continuent d'être payés. Et l'Allemagne se dit prête à engager un plan Marshall après des accords de paix pour la reconstruction du pays.
Oui, on vient de perdre Marius.
Il arrête de te faire rire comme ça.
Romain, une réaction.
Bah non, mais ça fait énormément de mesures. Du coup, pour ça pourrait durer combien de temps les conséquences de ces mesures-là?
Je sais pas. Enfin, ça dépend qu'est-ce que t'entends. Par exemple, la protection temporaire, c'est un an pour tous les réfugiés ukrainiens. Et dans un an, les 27 pays pourront décider soit de l'arrêter, et alors ils seront tous illégaux, enfin la plupart, ou alors ils pourront encore prolonger pour un an.
Aïza ?
Bah, je trouve que c'est quand même plutôt bien que d'autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne fasse quelque chose face à ça et accueillant des réfugiés. Ça montre que en fait les pays comme bah, par exemple la Moldavie ne sont pas seuls face à tous ces réfugiés, elles peuvent obtenir de l'aide et c'est plutôt bien.
Romain.
Oui, et justement même les pays outre-Atlantique comme non, c'est pas le cas du Japon, mais les États-Unis qui puissent accueillir aussi des réfugiés, ça montre aussi que ils assument une part de responsabilité, parce que je ne sais pas si dans les crises migratoires, c'est forcément les premiers à prendre des réfugiés.
Olympe ?
En Europe, en tout cas.
Rien à ajouter ? Non, non, mais c'était au cas où, au cas où. Bah Marius, on ne va pas te demander... ça va mieux, Marius ?
Oui.
Parce que tous les auditeurs, là, sont pétrifiés, mais qu'arrive-t-il à Marius ?
Tout va bien.
On vous rassure, tout va bien. Surtout tes parents, si jamais ils nous écoutent, Marius va bien. Il n'y a pas de souci, juste...
Il est devenu comme un éléphant, quoi.
Voilà, c'est les pollens.
Non, en fait, je me retenais depuis...
D'accord, les pollens, non ?
Ah non,
non. Non, d'accord, pas d'allergie ?
Non.
Non, c'était juste le Covid. Ne paniquez pas.
Oui. On n'a plus les masques, mais tout va bien.
D'autres... Oui, Corentin.
Oui, puis j'ai oublié d'ajouter... Que hier, il y a Emmanuel Macron qui a dit qu'ils allaient essayer de lancer une opération humanitaire spéciale à Mariupol pour évacuer le maximum de civils avec l'aide de la Grèce et de la Turquie. Enfin, je trouve que dire opération humanitaire, je crois spéciale, ça fait très opération, ça fait penser à la communication du Kremlin avec son opération militaire spéciale.
C'est vrai.
I don't know why. la suite ?
Et la suite de T'as vu l'actu ? Oh là là, cette fin de morceau était quelque peu, comment dire, agité, c'est ça. Non, je t'avais. Moi, je fais de la censure des fois avec les jeunes.
Oui. Donc voilà. C'est la réussite.
Du coup, on enchaîne. On parlait de l'Ukraine, des conséquences de la guerre en Ukraine. Eh bien, une des conséquences, c'est l'augmentation du prix de l'essence, Olympe.
Donc, tout d'abord, avant de parler du carburant, il faut savoir que maintenant que les élections présidentielles approchent et que du coup les candidats montrent leur programme. Je les ai tous écoutés pour l'instant, tous ceux qui sont passés, et il y a eu un point commun avec tous les candidats, c'est le prix du carburant. Donc chacun veut donner son avis par rapport à comment ferait-il pour baisser le prix du carburant, sans savoir que c'est facile de monter le prix du carburant, mais baisser ne serait-ce que d'un centime le prix du carburant, c'est très cher pour l'État. Et du coup... ils ne savent pas non plus, enfin je pense pas que tout le monde le...
Tu peux continuer.
Il me respectait pas quand je parle.
Si, si, il y a un souci technique, donc j'essaie de régler avec Marius, ça arrive parfois.
Oui, on parle pas en émission, on chuchote pas quand on parle, c'est mal poli. Bref.
Et en même temps, s'il y a un souci technique et qu'on ne peut pas entendre ta douce voix, Olympe, c'est pratique.
Mais t'arrêtes de m'interrompre.
Non, non, mais j'explique juste et nous pouvons nous parler calmement aussi.
Ouais. Pourquoi tant de violence ?
Parce c'est que ça. Ma gaze, depuis tout à l'heure, elle ne m'écoute pas.
Mais si, je ne fais que ça, t'écouter.
Non, c'est pas vrai. Et les villes n'ont pas le même TVA, donc le TVA, c'est un impôt. La TVA.
La TVA, ouais.
La TVA, c'est un impôt.
Tu vois, je t'écoute.
J'ai lui balancé un micro.
Non, oh, essaye.
Waouh. On va pas faire une deuxième guerre. Hein.
Non.
Trois. Bref.
Donc la TVA.
Donc la TVA est un impôt indirect, ce qui signifie qu'il n'est pas collecté directement par l'État comme l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation ou la taxe foncière. Et la TVA est en fait une taxe qui vient s'ajouter au prix de tous les produits qui sont ajustés, c'est-à-dire dans la quasi-totalité, ils rajoutent ça. Mais c'est pas direct. Et donc, je vais vous parler de la TVA, des pourcentages de TVA dans certaines villes. Donc, j'ai pas les noms des villes, mais il y a la TVA en France, elle peut être en... sur le continent, en métropole, elle est de 20% à peu près. Donc la remise des pompes, c'est à peu près de 18%, de 18 centimes, je veux dire. Le président, là, pour l'instant, il a... Jean Castex, le Premier ministre, il a enlevé déjà 18% vendredi prochain, je pense que c'est ça.
Vendredi dernier.
18 centimes.
Non, vendredi pour...
Pour vendredi prochain.
Oui, vendredi prochain, 18 centimes seront enlevés par litre pour le consommateur. Et... environ 17 centimes en Corse, où le TVA est à 13%, et 15 centimes en Outre-mer, où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers. Et le fait de voir que les pourcentages sont différents dans certains endroits de la France ou des pays français montre que diminuer le prix de l'essence n'est pas si facile que ça. Parce qu'on ne peut pas être égaux partout. Et même si de 15 à 18 centimes, ça peut pas paraître beaucoup, on va faire un exemple. Considérons qu'on fait le plein d'une voiture de 60 litres avec 18 centimes en moins par litre. Du coup, ça nous fait un total de 1800, soit 10,80 euros par plein. Et imaginons que vous fassiez beaucoup la route, que vous ayez un long trajet, que vous fassiez votre plein deux ou trois fois par mois, vous économiserez 32,40 euros. Bon, certes, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on paye avec l'essence, mais c'est déjà un bon début. Et surtout, vu les circonstances actuelles, notre président a aussi d'autres trucs à gérer que forcément l'essence. Et donc, pour finir, j'ai choisi ce sujet, car je vois de plus en plus de médias en parler en ce moment. Et avec la guerre en Ukraine et les présidentielles, on en parle, mais entre deux, du coup, il y a la colère des Français qui ont beaucoup plus de mal à payer. Et en même temps, c'est comme s'ils cachaient en même temps cette vérité. Mais je trouve que l'État a quand même bien commencé son boulot en espérant qu'il continue sur cette avancée.
Romain, tu te vois hocher de la tête, c'est pour ça.
Non, bah, c'est intéressant qu'on puisse parler de ce sujet-là quand même, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui... C'est l'une des plus importantes conséquences de la guerre en Ukraine vue par la France. Enfin, qui ont des effets directs sur la France. Mais je savais pas... c'est vrai qu'on a du mal forcément à savoir pourquoi les prix peuvent augmenter autant. Et surtout, si ça va... durer, si ça va durer ou si ça va pouvoir baisser sans qu'il y ait besoin forcément de mettre à long terme des remises sur le carburant.
Marius ?
En fait, j'ai entendu, je sais plus trop quand, enfin il y a quelques jours, que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Joe Biden avaient signé une espèce de traité pour sortir de la dépendance au gaz russe, que l'Union européenne et les États-Unis sortent de la dépendance au gaz russe, surtout l'UE parce que les États-Unis sont un peu moins dépendants, pour éviter d'être aussi contraints d'en acheter et donc de faire qu'il y ait une flambée des prix dans les pays européens. Et voilà, je voulais juste le dire puisque ça a quand même un sacré rapport.
Aïza,
en soi, par rapport à l'augmentation du prix de l'essence, ça a été, il y a rien de vraiment concret qui a été fait à part la guerre. C'est juste les gens qui ont pris peur parce que Vladimir Poutine a menacé de fermer tout ce qui était le truc du gaz en Allemagne, alors qu'en soi il a pris aucune mesure, rien n'a changé. C'est juste la peur des gens qui a fait augmenter le prix de l'essence. Maintenant, pour refaire baisser ce prix après cette peur-là, ça devient très compliqué. Et c'était la semaine dernière où il y avait déjà un pourcentage de remise qui était fait dans certaines stations, mais le pourcentage n'était pas affiché. Et là, je crois que la baisse des 18 centimes qui va être faite ne sera toujours pas affichée sur... dans les stations, ça sera juste un autocollant mis au niveau de la pompe à essence qui sera fait. Mais cette augmentation est juste due à la peur.
Certaines personnes disent le problème, c'est que ça aurait pu permettre. Oh là là, je sais plus parler français, moi. Du coup, à certaines personnes d'envisager une transition écologique. Alors, je dis certaines personnes, pas toutes, parce que quand on habite en campagne, la voiture, on n'a pas le choix. Mais que, du coup, c'est pas forcément une très bonne mesure. Que peut-être qu'il aurait fallu permettre ces baisses de, une aide en fait pour les gens qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Olympe,
voyons en avoir une.
Mais pour tout le monde, pas juste pour ceux qui...
Non, il va y en avoir une pour les personnes qui prennent la route longtemps,
les routiers,
tous les jours. Je crois que ça va être la moitié qui va être payée et pas diminuée de leur salaire. C'est un truc de l'État. Pour, après, ça va être... c'est un des programmes... c'est un des programmes dans le programme de notre président qui voudrait... faire ça. Donc pour l'instant c'est pas encore fait, mais si jamais il est réélu, normalement les routiers qui font...
Mais du coup c'est peut-être une aide aux entreprises plutôt.
En fait ça va être sur les,
mais pas aux particuliers. Voilà, parce que les gens qui doivent par exemple prendre leur voiture, qui habitent en campagne, qui doivent aller en ville et prendre leur voiture, ce trajet là pour l'instant
c'est aussi un choix.
Ça dépend où ils habitent. Des fois, ils n'ont pas les moyens d'habiter en centre-ville ou en ville parce que ça coûte trop cher.
C'est depuis longtemps qu'il y a ce problème. Parce que
c'est pour ça que c'était une occasion d'envisager peut-être une transition.
Je pense pas que le but c'était faire une transition, parce que sinon il n'y aurait pas eu le problème avec les gilets jaunes 2019, je ne sais plus quand est-ce que...
2018,
ouais. Les gilets jaunes en 2018... ils étaient là aussi pour au début, après ils sont partis en cacahuète, mais au début c'était pour le prix de l'essence, oui, qui était trop haut.
Pouvoir d'achat, ouais. Marius,
Je pense que si l'État prend pas spécialement de mesures pour que les particuliers, enfin prend des mesures pour éviter que le pétrole devienne trop cher, et donc pour qu'on puisse continuer à polluer avec nos voitures, c'est d'une part parce que en France, la voiture c'est un peu sacro-saint quand même. Il me semble qu'on est quand même beaucoup, quasiment, oui, je saurais pas, j'ai pas les chiffres donc je peux pas te dire, mais quasiment tous les Français ont des voitures, je pense.
Comme dans tous les pays européens.
Oui, enfin bon, comme beaucoup de pays. Et aussi l'industrie de l'automobile en France, ça rapporte énormément. Donc la transition écologique, je pense pas que l'État envisage de la faire comme ça d'un coup, parce que y a la guerre en Ukraine. C'est quelque chose qui est, d'un point de vue financier, c'est pour l'État c'est quelque chose de sensible, et ils peuvent pas juste parce que les prix du pétrole augmentent. Comment envisager de faire une transition écologique, pourquoi pas après, mais c'est pas ce qu'ils font en tous les cas.
Autre chose à rajouter sur ce sujet ?
Non.
Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne directement en fait avec le scandale des EHPAD. C'est une information qui est, oui, j'ai pas trouvé de transition, Marius, je suis désolée, mais qui est tombée hier, je crois, et du coup l'État qui porte plainte contre Orpea. Non, c'était pas ça ton
sujet. Oui, non, mais c'était la fin de la chronique du coup. Bon, c'est pas
pardon.
Grave.
Prends le début, oui. C'est bien.
Non, mais en fait, pour revenir sur la plainte qui a été déposée par l'État, Orpea, donc après le scandale, a été visée par d'autres plaintes qui donc visent les cliniques privées. Clinéa s'appelle, et donc ça appartient au groupe Orpea. Juste pour rappel, Orpea c'est le deuxième groupe d'EHPAD et de cliniques privées en France. Enfin oui, non, d'EHPAD, ça je suis sûre, en France. Et donc ils ont énormément d'argent, et un scandale a explosé sur la scène médiatique parce que un livre a été publié qui s'appelle Les Fossoyeurs. Ça a été écrit par Victor Castanet, qui est journaliste et qui s'est initié dans le système Orpea. Et donc dans le livre, il décrit les façons de faire de l'entreprise, avec à l'appui des témoins bien sûr. Il y a des infirmiers, je crois, qui ont témoigné, et un dirigeant de l'entreprise, un ancien dirigeant de l'entreprise.
Bon, oui, parce qu'il est parti depuis.
Oui, il est parti. Et donc lui aussi décrit les façons de faire à la direction et les maltraitances dans les EHPAD. Voilà. Du coup, je suis un peu perdue.
Reprends le début de ta chronique, t'inquiète pas.
Ouais, mais du coup, non.
Mais si.
Tu as recommencé.
Non, mais ce que tu avais.
Oui, donc le livre, pour revenir au livre, normalement, il était prévu qu'il soit vendu en à peu près 6 000 exemplaires, mais sauf que ça a été vendu à 250 000 exemplaires, donc un sacré succès. Mais un succès pour un bien, parce que on découvre comment les EHPAD fonctionnent. Et avant que le livre ne soit publié, ça n'avait pas une ampleur médiatique comme.
Ça s'est invité un peu dans la campagne présidentielle, oui. D'ailleurs.
Même si, quand même, les candidats s'emparent pas trop du sujet. Le sujet, pour l'instant, c'est l'immigration et le pouvoir d'achat. Voilà, donc ça n'a pas trop de rapport avec.
Et encore l'immigration.
Oui, enfin, du côté Zemmour, quoi. Mais
d'un seul.
Oui.
Donc maintenant, on va citer les autres.
Oui. Ah, bah oui.
Bah oui.
Oui, Le Pen aussi.
Voilà.
Pécresse.
Et voilà.
Non. Macron, Jadot.
Merci. Et les autres
Arthaud,
candidats.
Arthaud, Roussel, voilà. Lassalle,
Macron.
Hidalgo.
Quoi, on n'est pas un seul nom.
Voilà, je pense qu'on les a tous.
Poutou.
Poutou. Oui, Poutou, on a oublié Poutou.
C'est Anne Hidalgo.
C'est voilà. Non, j'ai déjà dit.
C'est qui Poutou?
Donc c'est bon. Ah, faut refaire tout le monde alors.
Attendez, c'est qui Poutou?
Nous sommes en.
C'est un candidat.
Je le dirai après.
C'est vraiment son prénom?
C'est
non, c'est son nom de famille.
Philippe Poutou.
Ah oui. Marius.
Donc. Je sais pas du coup.
Tu sais pas quoi?
Je sais pas par. Ah oui. Sinon. On découvre aussi que l'entreprise a mis pour budget, c'est 4 euros pour alimenter chaque résident par jour. Donc c'est 4 euros le budget. J'ai trouvé ce chiffre assez choquant, donc je voulais le mettre dans la chronique. Ouais. Et l'État a porté plainte parce que avant cela, un versement, enfin des versements étaient effectués par
Les dotations, ouais.
Les dotations. Et sauf que la plupart de l'argent a été utilisé pour d'autres choses que pour soigner et améliorer l'état des
Des bureaux, des gens, et pas oui. des.
et donc, beaucoup de résidents qui se sont plaints de leurs conditions de vie, et c'est un système assez sournois parce que les résidents des EHPAD peuvent difficilement aller se plaindre. Descendre dans la rue, aller dans des commissariats, se plaindre de ce qu'ils vivent, ou même en parler avec leurs proches, surtout pendant la crise sanitaire. Et voilà, donc c'est assez horrible.
Pourquoi as-tu choisi ce sujet, Marius ?
Parce que ça a pris une grande ampleur, c'est choquant comme sujet. Et aussi, parce que aussi ma grand-mère est dans une maison de retraite, je ne sais pas si elle est chez Orpea, mais c'est assez inquiétant.
Aïsa ?
Bah, ça fait peur. Parce que, on se rend compte que c'est la deuxième plus grande entreprise pour les EHPAD. Et les proches qu'on peut mettre dans une EHPAD, au final, on se dit que c'est les meilleurs. Et ils sont pas bien traités, ils sont délaissés. Donc, c'est quand même bien que l'État ait décidé de porter plainte.
Corentin ?
Je sais pas quoi dire.
T'as le droit. Romain ?
Oui, c'est sûr que ça fait peur. Et puis, ça fait quand même pas mal de temps qu'on dénonce un peu de toutes parts les conditions des personnes âgées dans les EHPAD. Même s'il faut attendre qu'un scandale éclate pour se dire qu'il y a un problème, je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup plus de groupes Corpea qui peuvent être visités sur les conditions des...
Et des inspections qui sont en cours d'ailleurs.
Des pensionnaires.
Olympe ?
Moi, j'ai pas eu ce problème d'avoir la maison de retraite parce que ma grand-mère, elle a 58 ans. Mais mon arrière-grand-mère, elle est dans une maison de retraite, mais qui... Mon arrière-grand-mère, oui, une de mes arrière-grand-mères, elle est dans une maison de retraite qui la soigne bien, elle, par contre.
Autre chose à rajouter sur ce sujet ? Mais c'est vrai que Marius, c'est un sujet qui te tient à cœur. On voit quand même que c'est un sujet qui tient souvent en critique les jeunes en disant ouais, ils s'en fichent de tout, tout ça, tout ça. Oui. Mais finalement, ce sujet-là vous concerne. Et en plus, on va rappeler que quand même pendant quelques mois, voire deux années, vous avez porté un masque pour les protéger. Donc voilà.
Un peu, oui.
Moi, c'est ce que j'avais quand envie même. De rajouter. Et maintenant, je cherche une transition avec Aïsa qui a choisi.
Les jeunes.
Ah non, mais si, voilà, les jeunes, tout ça. Et moi, quand j'étais jeune, j'habitais au Mans.
Est-ce que vous saviez que ça avait tué des personnes comme le monsieur ?
Non.
Si, ça a tué.
C'est, oui, mais oui, pas oui. comme le monsieur.
Oh, le monsieur est mort.
Pas le monsieur.
Il est mort. On va garder la transition d'Adeline.
Voilà, quand j'étais jeune, j'habitais au Mans.
Elle est méchante.
Et justement, Aïsa va nous parler du Mans.
Et donc, oui, au Mans, mercredi 23 mars 2022, au soir, il y a eu un jeune de 16 ans qui s'est fait poignarder. Donc, il a reçu plusieurs coups de couteau après être... durant son chemin de retour chez lui de la fête foraine. Alors c'est au niveau de la zone du panorama. Pour Adeline, ça doit lui dire quelque chose, mais pour nous qui vivons à Saint-Nazaire, pas du tout.
Ah, elle a vraiment habité au Mans ?
Oui.
Ah oui, oui.
Ah ben d'accord.
Tu fais que de le découvrir alors qu'elle dit à chaque émission.
Ah oui, c'est vrai.
Mais avant, alors je l'écoute pas.
Donc, ce jeune homme âgé de 16 ans est décédé sur les lieux malgré les soins prodigués par les pompiers rapidement sur place. Confirme jeudi 24 mars le procureur de la République dans un communiqué. Et les premières constatations techniques ont été réalisées sur les lieux et l'autopsie du corps de l'enfant sera réalisée dans la journée. Donc depuis ce moment-là, il y a eu trois personnes qui sont suspectées et elles ont été placées en détention hier. Donc, on n'a pas plus d'informations. On sait que le jeune habitait dans le quartier de Bellevue et qu'il a pris plusieurs coups de couteau dans le dos. mais on sait pas où, on sait pas, bah on sait pas si on sait où, mais on sait pas pourquoi il s'est fait, pourquoi il a pris ses coups de couteau. Et ça rappelle un peu tout ce qui s'était passé cet été près de Paris, où il y a eu plusieurs jeunes qui s'étaient fait tuer pour des bagarres de clans, on va dire. Et donc c'est quand même assez triste. Le gars avait 16 ans et il est décédé sans pouvoir continuer sa vie.
Et peut-être sans avoir compris pourquoi, d'ailleurs. Parce que c'est comme c'était dans le dos, il a même pas pu voir qui c'était, ces personnes.
Romain ?
Mais est-ce que dans le Mans, il y a eu récemment plusieurs affaires de délinquance ou des confrontations entre des bandes, justement ?
Pas de ce que j'ai vu, il n'y en a pas eu beaucoup. Voire même pas du tout.
Ok.
Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat et violence commise en réunion. Les suspects avaient été interpellés peu après les faits. Les indices recueillis rendent vraisemblablement leur présence sur les lieux selon la procédure.
Pourquoi as-tu choisi ce sujet ?
Parce que moi-même j'ai 16 ans et de me dire qu'en fait on peut se faire poignarder comme ça dans la rue sans vraiment savoir pourquoi, c'est quand même assez horrible.
Corentin ?
Moi, je trouve ça bizarre de parler de faits divers parce que il y a, je crois, au moins 3 crimes par jour et en fait, on choisira que ceux qui vendent le plus. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, on a parlé de... là, tu parles de lui parce qu'il a 16 ans. Il y a quelques jours, on a parlé du rugbyman qui s'est fait tuer parce que le tueur était quelqu'un de... Le tueur présumé, oui, voilà, c'est plus correct. A été un peu d'extrême droite. Un peu connu, parce que je pense pas que tout le monde le connaissait. Voilà, clairement d'extrême droite et un peu connu. On a parlé d'Ivan Colonna, tout ça. Mais il y a des gens qui vont se faire tuer dans l'anonymat complet. En fait, ou même pareil, là, juste avant de rentrer en émission, je voyais c'était une affaire avec un jeune homme de 14 ans qui s'était fait violer en pleine rue. Et par exemple, il y a des femmes ou même des hommes qui se feront violer peut-être plusieurs fois dans leur vie. On n'en entendra jamais parler d'eux. Ou même, par exemple, à Nantes, se trouve une sorte d'hystérie autour de l'insécurité, alors que dans d'autres villes, on n'en parlera pas du tout. Mais là, on en parlera parce que c'est Nantes. Et je trouve que c'est tellement arbitraire. Et ça apporte rien de parler de faits divers.
Dans les infos, on n'en parle pas dans la tribu, mais après, vous pouvez en parler. Toi, Aïssa, c'est peut-être l'occasion de répondre à Corentin, parce que c'était un sujet que toi, les faits divers que tu lis.
Oui, parce que ça, y a pas que les sujets économiques, politiques qu'il y a dans le monde, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Et là, en l'occurrence, ça se passe au Mans, c'est dans notre région. Et c'est ça qui m'a fait lire cet article.
Marius ?
C'est dans les Pays de la Loire, le Mans ?
Oui.
C'est en Sarthe. Olympe ?
En fait, je suis en train... Pour répondre à Corentin, je pense pas que forcément c'est parce que c'est quelqu'un... Par exemple, là, le jeune homme de 16 ans, c'est peut-être pas parce qu'il a que 16 ans que forcément on parle de lui. C'est peut-être aussi car... ça fait 2 ans on a été confinés.
Oui, on t'entend.
D'accord. On a été confinés et avec tous les problèmes qu'on a, on peut aussi un peu, entre guillemets, baisser notre garde et pas se rendre compte que là, par exemple, en Russie, en Ukraine, là, c'est la guerre. Mais on peut aussi se faire tuer à notre coin de rue et pourtant, c'est pas forcément la guerre. C'est aussi pour nous prévenir qu'il faut aussi qu'on fasse attention la nuit quand on sort la nuit, homme comme femme, hein, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a, on peut tomber sur quelqu'un qui est bourré ou quelqu'un qui est pas bienveillant pour
pas dans son notre... état.
Ouais, et puis même il y en a qui sont juste totalement psychopathes dans leur tête qui t'as pas forcément de raison pour te faire tuer aussi. Et il faut aussi qu'ils nous mettent en garde sur ça, donc. Je pense pas qu'il y ait forcément une raison pour avoir parlé de lui, forcément de lui, mais ça peut aussi être une prévention.
Corentin.
Je dis pas le contraire.
Il y avait toi, Romain, avant, pardon.
Non, mais vas-y.
Vas-y, Romain.
Ah non, mais enfin, c'est... Oui, comme comme l'a dit Aïssa, c'est vrai que on peut on a raison d'évoquer ces faits divers parce que généralement ça reste au coin d'une page dans un journal et après ça ressort pas trop. Et c'est vrai que on remarque que souvent on parle surtout des ce genre de choses, faire un assassinat dans une prison, ça peut arriver à n'importe qui.
Quelqu'un, ah non, quelqu'un. Pas condition d'être en prison quand même.
Voilà. Oui, bah il y a des étapes à faire. être assassiné dans une ville, le fait que ce soit quelqu'un d'extrême droite, c'était surtout parce que c'était quelqu'un de connu. Mais enfin, on a l'impression que si c'est pas lié à une idéologie politique particulière, ça intéressera pas les médias et que ça peut risquer de faire limite. Passer pour normal ou faire désintéresser ce genre de choses qui est absolument atroce.
Marius ?
Mais là, je vois pas de raison particulière qui aurait pu faire que cette info...
Bah, on ne sait pas encore.
Bah, on n'en sait rien. De quoi ? Tu vois, ça me fait penser...
Attends, on ne sait pas encore. Pour l'instant, l'enquête, elle est en cours.
Ça oui, non, mais penser... je vois pas de raison particulière. Pourquoi d'ailleurs, je sais même pas si cette info-là, elle est dans les gros médias. Est-ce que c'est dans la une ? Je sais pas.
Ouest France, il y a eu France Bleu, le Parisien, je crois même qu'il a écrit un article dessus. Non, le Figaro. Le Figaro a écrit un article dessus aussi.
Oui, donc il y a quand même une certaine ampleur par rapport à d'autres faits divers, mais je vois pas.
C'est lié à l'âge.
Ah oui,
mais.
Corentin.
Ah bah oui, c'est oui, ça me fait penser aussi, par exemple, je crois que c'était. Bah là, il y a pas longtemps, Saint-Nazaire, il y avait eu un incendie avec deux personnes de décédées et. Je crois que il y a
là,
ça.
Là, dans notre rue.
Oui. Ou même, tu vois, c'est pas la première fois qu'il y a un.
Ou de l'ancien.
D'un ancien.
D'accord.
Tu vois, mais même, c'est
là,
pas
c'était
la.
C'était une personne
non,
de
non,
décédée.
Non.
Mais c'est pas la première fois qu'il y a un incendie mortel à Saint-Nazaire et qu'absolument personne n'en parle. Alors que, par exemple, il y avoir un incendie d'un hangar en région parisienne, ça peut faire le. Ça peut être parlé par. Plusieurs médias, alors que je trouve même il y a une hiérarchie. Saint-Nazaire s'en voit pas du rêve, alors on n'en parle pas. La région parisienne, quelle que soit, bah ça, même si ça touche plus de personnes, même pourquoi parler d'un hangar alors que c'est juste parfois rien qui, il y aura aucun blessé, alors qu'ici qu'il y a des morts ou même tout un contexte autour du mal logement, et bah personne n'en parle.
Olympe,
c'est pas parce que ce n'est pas médiatisé que médiatiser, c'est juste pour faire parler. Mais la procédure judiciaire, c'est tout à fait la même que les autres. Ils en prennent un sur les autres, ça c'est sûr, mais ils en prennent, c'est sûr qu'ils vont plus parler de Paris que de notre ville, parce que c'est beaucoup plus connu. Mais la procédure judiciaire, ce sera la même. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un incendie, il y a un mois, je crois, donc ça date quand même un peu.
Il y a eu il y en a eu un dans la rue
hier.
Il y a deux jours. Hier.
Ouais, mais il y avait aussi eu un incendie dans la rue à côté de la plage. Mais quand on connaît les circonstances, on se dit, quand même, c'était pas ouf, parce que c'était. Ils vendaient très cher les appartes où ils dormaient.
Un marchand de sommeil, on appelle ça.
Ouais, un marchand de sommeil, là, où ils dormaient à 6 dedans. Et ça a cramé et il s'est cassé. Bon, il a été retrouvé, je crois. Mais quand même, ils sont quasiment tous morts. Et avec des corps calcinés, du coup.
Romain, ça va être la dernière parce que normalement, on devrait avoir fini depuis.
Ah
oui.
Oui,
je sais.
C'est vrai. Par contre, je suis pas trop d'accord par rapport à la procédure judiciaire parce que je pense que plus c'est médiatisé, plus ils ont de la pression pour la gestion de l'enquête. Justement, que ce soit l'immeuble qui a brûlé à Saint-Nazaire ou un immeuble à Marseille ou à Paris, on parlera beaucoup plus de ce qui se passe dans les grandes villes plutôt qu'à Saint-Nazaire. Et l'enquête et même les travaux pour reconstruire ce qui s'est passé seront beaucoup plus urgents dans les grandes villes que dans les villes peu médiatisées.
Merci beaucoup Olympe, Romain, Corentin, Aïssa et Marius.
Merci
et à suivre si vous n'écoutez pas la rediffusion, c'est l'émission Jeux et Manques.